Chapitre 67. Parole. Que cesse ma douleur, que cessent mes larmes. Dai Gonartis, le noir pêcheur tient ma douleur et la consume.
Thanatésache, 1173. 28 secondes avant la mort. Une jongleuse sombriris. Notez la similitude avec le fragment 1172-89. Le pont 4 traînait derrière le reste de l'armée. Avec deux blessés et quatre hommes nécessaires pour les porter, le pont les ralentissait. Heureusement, Sadeas avait amené la quasi-totalité des équipes de pont sur cette course, dont huit apprêtées à Dalinar. Par conséquent, l'armée n'avait pas besoin d'attendre l'équipe de Kaladin pour traverser. L'épuisement terrassait Kaladin, et le pont semblait de pierre sur ses épaules. Il ne s'était pas senti à ce point fatigué depuis ses premiers jours d'homme de pont. Syl flottait devant lui, le regardant d'un air inquiet, tandis qu'il marchait à la tête de ses hommes, en nage, luttant sur le sol inégal du plateau. Devant eux, la queue de l'armée de Sadeas s'agglutinait le long du gouffre pour traverser. Le plateau de rassemblement était quasiment vide. L'atroce audace de ce qu'avait fait Sadeas tordait les tripes de Kaladin. Il croyait qu'on lui avait fait quelque chose d'horrible. Mais ici, Sadeas venait de condamner sans aucun remords des milliers d'hommes, pâles et sombres iris. Des hommes censés être ses alliés. Cette trahison semblait peser aussi lourd sur les épaules de Kaladin que le pont lui-même. Elle l'écrasait, lui coupait le souffle. N'y avait-il aucun espoir pour les hommes? Ils tuaient ceux qu'ils auraient dû aimer. À quoi bon se battre? À quoi bon gagner s'il n'y avait aucune différence entre ennemis et alliés? Qu'était donc la victoire? Insignifiante. Que représentait la mort des amis et des collègues de Kaladin? Rien. Le monde entier n'était qu'une pustule d'un ver écœurant, infesté de corruption. Engourdi, Kaladin et les autres atteignirent le gouffre, bien qu'ils arrivent trop tard pour aider à faire traverser l'armée. Les hommes qu'il avait envoyés en avant étaient là. Teft avait une mine lugubre et Scar s'appuyait sur une lance pour soutenir sa jambe blessée. Un petit groupe de lanciers morts reposait non loin de là. Les soldats de Sadeas revenaient rechercher leurs blessés, lorsque c'était possible, mais certains mouraient alors même qu'on les ramenait. Ils avaient abandonné certains de ceux-là ici. Sadeas était manifestement pressé de quitter les lieux. On avait laissé aux morts tout leur équipement. C'était sans doute là que Scar avait trouvé sa béquille. Une malheureuse équipe de pont devrait retraverser jusque-là un peu plus tard pour récupérer du butin sur ses morts et ceux de Dalinar. Ils posèrent leur pont, et Kaladin s'épongea le front. « Ne placez pas le pont en travers du gouffre, » dit-il à ses hommes. « Nous allons attendre que le dernier soldat ait traversé, puis nous le transporterons sur l'un des autres ponts. » Matal mesura Kaladin et son équipe du regard, mais ne leur ordonna pas d'installer leur pont. Ils comprenaient bien que, le temps qu'ils le mettent en position, ils allaient devoir le soulever de nouveau. « Sacré spectacle, non ?» dit Moash qui s'approcha de Kaladin pour regarder vers la tour. Kaladin se retourna. La tour se dressait derrière eux, inclinée dans leur direction. L'armée de Colin formait un cercle bleu, piégée au milieu de la pente après avoir tenté de redescendre et de rejoindre Sadeas avant qu'il ne parte. Les Parchendi, avec leurs peaux marbrées, formaient une masse noire constellée de taches rouges. Ils enserraient le cercle Aleti et le comprimaient.
« Quelle honte !» dit Drei près de leur pont, assis sur le rebord. « Ça me rend malade. »
D'autres hommes de pont hochèrent la tête, et Kaladin s'étonna devant leur air préoccupé. Rock et Teft rejoignirent Kaladin et Moash, tous vêtus de leur armure faite des carapaces de Parchendi. Ils se réjouissaient d'avoir laissé chaîne au camp. Ce spectacle l'aurait rendu catatonique. Teft serrait contre lui son bras blessé. Rock leva la main pour s'abriter les yeux et secoua la tête, regardant vers l'est.
« C'est une honte pour Sadeas, une honte pour nous. »«
Pont 4 !» appela Matal. « Venez !»
Matal leur faisait signe de traverser le pont 6 et de quitter le plateau de rassemblement. une idée traversa soudain Kaladin. Une idée fantastique, comme un bouton de roche bourgeonnant dans son esprit.
« Nous allons suivre avec notre propre pont, Matal, » lui lança Kaladin. « Nous venons à peine d'atteindre le gouffre. Nous avons besoin de nous asseoir quelques minutes. »«
Traversez tout de suite !» hurla Matal.
« Nous ne ferons que nous laisser distancer encore davantage, » rétorqua Kaladin. « Vous voulez expliquer à Sadeas pourquoi elle doit retenir toute l'armée pour une misérable équipe de ponts ?»«
Nous avons notre pont. Laissez mes hommes se reposer. Nous vous rattraperons plus tard. »
« Et si ces sauvages vous poursuivent ?» demanda Matal d'une voix insistante. Kaladin haussa les épaules.
Matal cligna des yeux, puis sembla comprendre à quel point il souhaitait que ça se produise.
« Comme vous voulez » lança-t-il, avant de traverser précipitamment le pont 6, tandis que l'on retirait les autres ponts.
Quelques secondes plus tard, l'équipe de Kaladin se retrouva seule de ce côté du gouffre, tandis que l'armée se retirait vers l'est.
Kaladin eut un sourire radieux.
« Je n'arrive pas à y croire après toutes ces inquiétudes.
Messieurs, nous sommes libres !»
Les autres se tournèrent vers lui, déconcertés.
« Nous allons les suivre dans peu de temps, » dit Kaladin avec enthousiasme, « et Matal pensera que nous arrivons. Nous allons prendre de plus en plus de retard par rapport à l'armée, jusqu'à ce que nous soyons hors de leur vue. Là, nous tournerons vers le nord, et nous utiliserons le pont pour traverser les plaines. Nous pouvons nous échapper vers le nord, et tout le monde pensera simplement que les Parchendi nous ont rattrapés et massacrés. »
Les autres hommes de pont le regardèrent en ouvrant de grands yeux.
« Le matériel ?» dit Teft.
« Nous avons ces sphères, » répondit Kaladin en sortant sa bourse.
« Une petite fortune, juste ici. Nous pouvons prendre l'armure et les armes de ces morts là-bas et nous en servir pour nous défendre contre les bandits. Ce sera difficile, mais personne ne nous pourchassera. »
Les hommes commencèrent à s'animer. Cependant, un détail fit réfléchir Kaladin. Et les hommes de pont blessés restaient au camp.
« Il va falloir que je reste en arrière, » dit Kaladin.
« Quoi ?»
dit Moash.
« Il faudra que quelqu'un le fasse, » dit Kaladin. « Pour le bien de nos blessés, restez au camp. Nous ne pouvons pas les abandonner. Et si je reste en arrière, je pourrai confirmer l'histoire.
Blessez-moi et laissez-moi sur l'un des plateaux. Sadeas va forcément renvoyer des hommes chercher du butin. Je leur dirai que mon équipe a été pourchassée pour nous punir d'avoir profané les corps des Parchendi et que notre pont a été jeté dans le gouffre. Ils me croiront. Ils ont vu à quel point les Parchendi nous détestent. »
Toute l'équipe était debout à présent, échangeant des regards gênés.
« Nous ne partons pas sans vous, » déclara Sigzil. Une grande partie des autres hochèrent la tête.
« Je vous suivrai, » dit Kaladin.
« Nous ne pouvons pas laisser ces hommes en arrière. »«
Kaladin, gamin, » commença Teft.
« Nous pourrons parler de moi plus tard, » le coupa Kaladin. « Peut-être que je vous suivrai et que je me faufilerai dans le camp plus tard pour secourir les blessés. Pour l'instant, allez récupérer du matériel sur ces corps. »
Ils hésitèrent.
« C'est un ordre, messieurs !»
Ils se mirent en mouvement sans protester davantage et se précipitèrent pour piller les cadavres abandonnés par Sadeas. Kaladin se retrouva seul près du pont. Il était toujours mal à l'aise. Ce n'était pas seulement à cause des blessés laissés au camp. Alors quoi d'autre ? C'était une occasion formidable. Lors de ses années d'esclavage, il aurait été capable de tuer pour en obtenir une de ce genre. L'occasion de disparaître, d'être présumé mort. Les hommes de pont n'auraient pas à se battre. Ils étaient libres. Dans ce cas, pourquoi était-il si nerveux ? Kaladin se tourna pour inspecter ses hommes et eut la stupéfaction de voir quelqu'un près de lui. Une femme, faite de lumière blanche translucide. C'était Syl, telle qu'il ne l'avait jamais vue, de la taille d'une personne ordinaire, mains jointes devant elle, les cheveux et la robe flottant sur le côté, agitée par le vent. Il ignorait totalement qu'elle pouvait se rendre aussi grande. Elle regardait fixement vers l'est, l'expression horrifiée, ouvrant de grands yeux tristes. C'était le visage d'un enfant assistant à un meurtre brutal qui lui volait son innocence. Kaladin se retourna lentement pour regarder dans la même direction qu'elle, vers la tour, vers l'armée de Dalinar Colline.
ce spectacle lui serrait le cœur. Il livrait un combat tellement désespéré, cerné, abandonné, laissé seul face à la mort.
« Nous avons un pont, » comprit Kaladin. « Si nous parvenions à le mettre en place... »
La plupart des Parchendi se concentraient sur l'armée Aleti, ne laissant qu'un groupe de réservistes symboliques à la base, près du gouffre. C'était un groupe assez petit pour que les hommes de pont puissent peut-être les maîtriser. Mais non, c'était de la bêtise pure et simple. Des milliers de soldats Parchendi empêchaient Colin de rejoindre le gouffre. Et comment les hommes de pont poseraient-ils leur pont sans archers pour les soutenir? Plusieurs des hommes revinrent de leur fouille rapide. Rock rejoignit Kaladin et regarda fixement vers l'est, l'expression soudain lugubre.
« Cette chose est terrible, » dit-il. « Est-ce que nous ne pouvons pas faire quelque chose pour les aider ?»
Kaladin secoua la tête. « Ce serait du suicide, Rock. Nous devrions attaquer sans armée pour nous soutenir. Est-ce que nous ne pourrions pas refaire une partie du chemin ?» demanda Scar. « Attendre de voir si Colin arrive à se frayer un chemin jusqu'à nous. S'il y parvient, alors nous pourrions mettre notre pont en place. »«
Non, » répondit Kaladin. « Si nous restions hors de portée, Colin nous prendrait pour des éclaireurs laissés par sa déesse. Nous allons devoir charger à travers le gouffre. Autrement, il ne viendra jamais à notre rencontre. »
Cette idée fit pâlir les hommes de pont. « Par ailleurs, » ajouta Kaladin, « si nous parvenions d'une manière ou d'une autre à sauver ces hommes, » il parlerait, et sa déesse saurait que nous sommes toujours en vie. Il nous pourchasserait et nous tuerait. En revenant en arrière, nous gâcherions notre chance d'être libres. Les autres hommes de pont acquiescèrent. Les autres s'étaient rassemblés, portant des armes. Il était temps de partir. Kaladin tenta d'étouffer la sensation de désespoir qu'il éprouvait. Ce Dalinar Colin était sans doute comme les autres, comme Rochaune, comme sa déesse, comme n'importe quel autre Paliris, affichant une vertu de façade mais corrompue à l'intérieur.
Mais il a des milliers de soldats sombres iris avec lui, songea une partie de lui. Des hommes qui ne méritent pas ce sort affreux. Des hommes comme ma propre troupe de lanciers.
Nous ne leur devons rien, murmura Kaladin. Il lui semblait voir flotter la bannière bleue de Dalinar Colin à l'avant de son armée.
C'est vous qui les avez attirés là-dedans, Colin. Je refuse de laisser mes hommes mourir pour vous. » Il tourna le dos à la tour. Syl se tenait toujours près de lui, tourné vers l'est. Voir cette expression de désespoir sur son visage lui tordait jusqu'à l'âme.
« Est-ce que les sprennes du vent sont attirées par le vent ? »
demanda-t-elle tout bas.
« Ou est-ce que ce sont eux qui le provoquent ?»«
Je n'en sais rien, » répondit Kaladin. « C'est important ?»«
Peut-être que non. Tu sais, « je viens de me rappeler quel genre de spren je suis. »«
Est-ce que c'est le moment, Syl ?»«
Je lis les choses entre elles, Kaladin, »
dit-elle en se retournant pour croiser son regard.
« Je suis un spren d'honneur, un esprit de serment, de promesse et de noblesse. »
Kaladin entendait faiblement les bruits du combat, à moins que ce ne soit que son esprit, cherchant quelque chose qu'il savait être là. Entendait-il les hommes mourir ? Voyait-il les soldats s'enfuir, se disperser, laissant seuls leur chef de guerre? Tous les autres en train de fuir. Kaladin agenouillé par-dessus le corps de Dalet. Une bannière vert et bordeaux qui flottait seule sur le champ de bataille. « Je suis déjà venu ici !» hurla Kaladin en se tournant vers cette bannière bleue. Dalinar se battait toujours à l'avant. « Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois ?» hurla Kaladin. « J'ai appris ma leçon. Je refuse de me laisser à nouveau berner !» Tout ça semblait l'écraser. La trahison de Sadeas, l'épuisement, la mort de tant d'hommes. L'espace d'un instant, il se retrouva là-bas, à genoux dans le quartier général mobile d'Amaram, à regarder ses derniers amis se faire massacrer, trop faibles et blessés pour les sauver. Il leva une main tremblante vers sa tête et y tâta la marque, humide de sueur. « Je ne vous dois rien, Colin !» Et la voix de son père sembla murmurer une réponse.
« Il faut bien que quelqu'un commence, mon fils, que quelqu'un s'avance et fasse ce qui est juste, parce que c'est juste. Si personne ne commence, alors les autres ne peuvent pas suivre. »
Dalinar était venu à l'aide des hommes de Kaladin, attaquant ses archers et sauvant ainsi le pont 4.
Les pâles iris ne se soucient pas de la vie, avait dit Lyrine. Alors il faut que je le fasse, que nous le fassions. Alors il faut que tu le fasses. La vie avant la mort. J'ai échoué si souvent. J'ai été jeté à terre et piétiné. La force avant la faiblesse. Ce serait la mort à laquelle j'aurais conduit mes amis. Le voyage avant la destination. La mort et ce qui est juste.
Il faut que nous y retournions, dit doucement Kaladine. Nom des foudres, il le faut.
Il se tourna vers les membres du pont 4. Un par un, ils hochèrent la tête. Des hommes qui n'étaient encore que les rebuts de l'armée quelques mois auparavant, qui ne s'étaient autrefois souciés de rien d'autre que de leur peau, prirent une profonde inspiration, chassèrent toute inquiétude pour leur propre sécurité et hochèrent la tête. Ils allaient le suivre. Kaladine leva les yeux et inspira profondément. La fulgiflamme déferla en lui comme une vague, comme s'il venait de lever la bouche vers une tempête majeure et de l'aspirer en lui. « Levez le pont !» ordonna-t-il. Les membres du pont 4 poussèrent des vivas en signe d'assentiment, s'emparèrent de leur pont et le hissèrent bien haut. Kaladine tira sur un bouclier pour en saisir les courroies dans sa main. Puis il se tourna et le brandit bien haut. Avec un cri, il guida ses hommes pour les faire charger en direction de cette bannière bleue abandonnée. La cuirasse de Dalinar laissait échapper de la fulgiflamme par des dizaines de petites brèches. Aucune pièce majeure n'avait échappé aux dégâts. La lumière s'élevait au-dessus de lui comme la vapeur d'un chaudron, s'attardant comme le faisait la fulgiflamme, se diffusant lentement. Le soleil cognait sur lui, l'écrasant tandis qu'il se battait. Il était tellement fatigué. Il ne s'était pas écoulé si longtemps depuis la trahison de Sadeas, pas à l'échelle de temps des combats. Mais Dalinar avait trop exigé de lui-même, restant tout à l'avant, se battant côte à côte avec Adeline. Sa cuirasse avait perdu beaucoup de fulgiflamme. Elle devenait de plus en plus lourde et lui prêtait moins de pouvoir à chaque coup. Bientôt, elle le ralentirait, et les Parchendi pourraient ainsi affluer sur lui. Il en avait tué beaucoup, tellement, un nombre effrayant. Et il le faisait sans le frisson. Il était vide à l'intérieur, ce qui valait mieux que d'éprouver du plaisir. Il n'en avait pas tué assez, loin de là. Il se concentrait sur Dalinar et Adeline. Avec des porte-éclats en première ligne, toute brèche serait bientôt comblée par un homme à l'armure luisante et à la lame mortelle. Les Parchendi devaient les terrasser d'abord, Adeline et lui. Il le savait. Dalinar le savait. Adeline aussi. Les récits parlaient de champs de bataille où les porte-éclats étaient les derniers debout, vaincus par leurs ennemis après de longs combats héroïques. Totalement irréalistes. Si l'on tuait les porte-éclats en premier, on pouvait prendre leur lame et la retourner contre l'ennemi. Il frappa de nouveau, les muscles alourdis par l'épuisement. Mourir d'abord. C'était un bon endroit où se trouver.
N'exigez rien d'eux que vous ne feriez pas vous-même.
Dalinar trébucha sur les rochers, et sa cuirasse d'éclat lui sembla aussi lourde qu'une armure ordinaire. Il pouvait être satisfait de la façon dont il avait mené sa propre vie. Mais ces hommes, il les avait abandonnés. Lorsqu'il se rappelait de quelle manière stupide il les avait conduits dans un piège, il en avait la nausée. Et il y avait Navani.
Il a fallu que je choisisse ce moment pour commencer enfin à la courtiser. Se dit-il. 6 années gâchées, toute une vie gâchée, et maintenant, elle va de nouveau devoir pleurer quelqu'un.
Cette idée lui fit lever les bras et poser les pieds bien à plat sur la pierre. Il repoussa les Parchendi. Il continua à lutter, pour elle. Il n'allait pas se laisser tomber tant qu'il lui restait de la force. Non loin de lui, l'armure d'Adeline laissait elle aussi échapper de la flamme. Le jeune homme déployait des efforts de plus en plus désespérés pour protéger son père. Il n'avait pas parlé d'essayer, peut-être, de sauter par-dessus les gouffres et de prendre la fuite. Avec des gouffres aussi larges, les chances étaient minces. Mais par ailleurs, ils refusaient d'abandonner leurs hommes face à la mort. Adeline et lui avaient vécu selon les codes. Ils mourraient donc selon eux. Dalinar frappa de nouveau, formant avec Adeline un tandem tout juste intouchable. Comme le faisaient deux porte-éclats. La sueur coulait le long de son visage à l'intérieur de son casque et il jeta un dernier regard en direction de l'armée en train de disparaître. Elle était à peine visible à l'horizon. La position actuelle de Dalinar lui offrait une bonne vue vers l'ouest.
« Que cet homme soit maudit pour 100 de mes pères. Qu'est-ce que c'est que ça ?»
Un petit groupe traversait le plateau ouest en courant en direction de la tour. Une équipe de ponts solitaires, portant son pont.
« Ce n'est pas possible, » dit Dalinar en reculant du combat,
laissant la garde Cobalt, ou ce qu'il en restait, se précipiter pour le défendre. Refusant d'en croire ses yeux, il releva sa visière. Le reste de l'armée de Sadeas avait disparu, mais il restait cette unique équipe de ponts. Pourquoi donc ?«
Adoline !» hurla-t-il en la désignant à l'aide de sa lame d'éclat, une vague d'espoir déferlant soudain dans ses membres.
Le jeune homme se retourna et suivit le geste de Dalinar. Il se figea.
« Impossible ! » s'écria-t-il. « Quel genre de piège est-ce là ? » ?»«
Un piège idiot si c'en est un. Nous sommes déjà morts. »
« Mais pourquoi renverrait-il une équipe ? Dans quel but ? » ?»«
Quelle importance ! »
Ils hésitèrent un instant au cœur du combat. Tous deux connaissaient la réponse.
« Formation d'attaque !»
hurla Dalinar en se retournant vers ses hommes. Père des tempêtes, il en restait si peu, moins de la moitié de ses 8000 d'origine.
« En formation !» cria Adoline. « Préparez-vous à bouger. Nous allons tenter une percée, messieurs. Rassemblez tout ce que vous avez. Nous avons une chance !»«
Une chance infime !» songea Dalinar en rabaissant sa visière. « Nous allons devoir traverser le reste de l'armée par Shendi. »
Même s'ils atteignaient le bas, ils trouveraient sans doute l'équipe morte, le pont jeté dans le gouffre. Les archers par Shendi se mettaient déjà en formation. Il y en avait plus de 100. Ce serait un massacre. Mais c'était un espoir, un minuscule et précieux espoir. Si son armée devait tomber, elle le ferait tout en cherchant à se saisir de cet espoir. Levant bien haut sa lame d'éclat, éprouvant un regain de force et de détermination, Dalinar chargea vers l'avant à la tête de ses hommes. Pour la deuxième fois de la journée, Kaladin courait vers une force armée par Shendi, bouclier devant lui, portant une armure taillée dans le cadavre d'un ennemi mort. Peut-être aurait-il dû se sentir révolté par ce qu'il avait fait en créant cette armure. Mais ce n'était pas pire que ce qu'avaient fait les par Shendi en tuant Denis, Carto, et cet homme sans nom qui s'était montré si gentil avec lui lors de son premier jour d'homme de pont. Kaladin portait toujours les sandales de cet homme.
Eux. « Et nous ?» songea-t-il.
C'était la seule façon d'envisager les choses pour un soldat. Pour aujourd'hui, Dalinar Colline et ses hommes faisaient partie de ce « nous ». Un groupe de par Shendi avait vu les hommes de pont approcher et préparait ses arcs. Fort heureusement, Dalinar semblait avoir vu l'équipe de Kaladin lui aussi, car l'armée en bleu commençait à se tailler un chemin vers ses sauveteurs. Ça n'allait pas fonctionner. Il y avait trop de par Shendi, et les hommes de Dalinar devaient être fatigués. Ce serait une nouvelle catastrophe. Mais pour une fois, Kaladin s'y précipitait les yeux grands ouverts.
« C'est mon choix », se dit-il tandis que les archers par Shendi se mettaient en formation. « Ce n'est ni un dieu furieux qui me surveille, ni un spren qui me joue des tours, ni un quelconque caprice du sort. C'est moi. J'ai choisi de suivre Tien. J'ai choisi... d'attaquer ce porte-éclat pour sauver Amaram. J'ai choisi de m'échapper des fosses aux esclaves, et maintenant je choisis d'essayer de sauver ces hommes, quand bien même je sais que je vais sans doute échouer. »
Les par Shendi tirèrent leurs flèches, et Kaladin sentit une forme d'exaltation l'envahir. La fatigue s'évapora, l'épuisement disparut. Il ne se battait pas pour sa déesse. Il ne travaillait pas pour remplir les poches de quelqu'un d'autre. Il se battait pour protéger. Les flèches pleuvaient sur lui, et il agita son bouclier en arc de cercle pour les disperser. D'autres suivirent, filant dans tous les sens, cherchant sa chair. Il conservait une légère avance sur elle, sautant lorsqu'elle visait ses cuisses, se tournant lorsqu'elle visait ses épaules, levant son bouclier lorsqu'elle visait son visage. Ce n'était pas facile, et plusieurs flèches passèrent tout près, éraflant ses grèves ou son plastron. Mais aucune ne le toucha. C'était lui qui faisait ça. C'était... Quelque chose allait de travers. Il pivota entre deux flèches, décontenancé.
Kaladin !
S'écria Syl, qui planait tout près de là, ayant repris sa forme plus petite.
Là-bas !
Elle désignait l'autre plateau de rassemblement, celui qui se trouvait tout près et que Dalinar avait utilisé pour son attaque. Un large contingent de Parchendi avait sauté par-dessus le gouffre pour atteindre ce plateau et s'agenouillait, levant ses arcs. Tournés non pas vers lui, mais droit vers le flanc non protégé du pont 4.
« Non !»
hurla Kaladin, laissant s'échapper de sa bouche un nuage de fulgiflamme. Il se retourna et se mit à courir en sens inverse pour traverser le plateau rocheux en direction de l'équipe de pont. Des flèches lui furent tirées dessus par derrière. L'une d'elles atteignit de plein fouet sa dossière, mais ricocha. Une autre toucha son casque. Il sauta par-dessus une crevasse rocheuse, fonçant avec toute la vitesse que pouvait lui prêter la fulgiflamme. Sur le côté, les Parchendi étaient en train de tirer. Il y en avait au moins 50. Il allait arriver trop tard. Il allait...
« Pont 4 !» hurla-t-il. « Port latéral à droite !»
Il n'avait pas répété cette manœuvre depuis des semaines. Mais leur entraînement était manifeste lorsqu'ils obéirent sans poser de questions et baissèrent leur pont sur le côté alors même que les archers tiraient. La volée de flèches atteignit le dessus du pont, hérissant le bois. Kaladin poussa un soupir de soulagement et rejoignit l'équipe, qui avait ralenti pour porter le pont sur le côté.
« Kaladin !» dit Rock en tendant le doigt.
Kaladin se retourna. Les archers postés derrière eux, sur la tour, se préparaient à tirer une large volée. L'équipe de pont était exposée. Les archers tirèrent. Il hurla de nouveau, à plein poumon, la fulgiflamme infuse en l'air alentour, tandis qu'il projetait tout entière celle qu'il portait en lui à l'intérieur de son bouclier. Le hurlement résonna à ses oreilles. La fulgiflamme s'échappa violemment de lui, et ses vêtements se mirent à geler en crépitant. Les flèches assombrirent le ciel. Quelque chose le frappa violemment, un impact prolongé qui le jeta en arrière contre les hommes de pont. Il les percuta brutalement avec un grognement, tandis que la force continuait à l'écraser. Le pont s'arrêta brusquement, et les hommes s'immobilisèrent. Le silence tomba. Kaladin cligna des yeux, totalement vidé. Son corps lui faisait mal. Ses bras fourmillaient, son dos était endolori. Il avait une vive douleur au poignet. Il ouvrit les yeux avec un gémissement et tituba quand les mains de Rock le rattrapèrent par derrière. Un choc étouffé. Le pont qu'on reposait. «
Idiot !» se dit Kaladin. « Ne le reposez pas. Retirez-vous. »
Les hommes de pont se rassemblèrent autour de lui tandis qu'il glissait à terre, écrasé d'avoir dépensé trop de fulgiflammes. Il cligna des yeux en voyant ce qu'il tenait devant lui, fixé à son bras en sang. Son bouclier était couvert de flèches, par dizaines, dont certaines avaient fendu les autres. Les os croisés à l'avant du bouclier avaient volé en éclats. Le bois était entaillé. Plusieurs des flèches avaient traversé et atteint son avant-bras, d'où la douleur. Plus d'une centaine de flèches, une volée entière, attirée par un seul bouclier.
« Par les rayons du Parleclerc ?» murmura Drei. «
C'était comme une fontaine de lumière !» dit Moash en s'agenouillant près de Kaladin. « Comme si le soleil lui-même se dégageait de vous, Kaladin !»«
Les Parchendi !» répondit-il d'une voix rauque tout en lâchant le bouclier.
Les courroies étaient cassées, et tandis qu'il luttait pour se lever, le bouclier se désintégra presque, tomba en pièces, répandant à ses pieds des dizaines de flèches brisées. Quelques-unes demeurèrent collées à son bras, mais il ignora la douleur et regarda en direction des Parchendi. Sur les deux plateaux, les groupes d'archers étaient figés dans des postures hébétées. Ceux qui se trouvaient à l'avant s'interpellaient dans une langue que Kaladin ne comprenait pas.
« Neshua Kadal !»
Ils se levèrent, puis ils prirent la fuite.
« Quoi ?» dit Kaladin.
« Je sais pas, »
dit Teft, qui serrait contre lui son bras blessé.
« Mais nous allons vous emmener en lieu sûr.
Saleté de bras, l'open !»
Le petit homme arriva en compagnie de Dabid, et ils guidèrent Kaladin vers un emplacement plus sûr au centre du plateau. Il tenait son bras engourdi,
envahi par un épuisement si profond qu'il pouvait à peine penser.
« Levez le pont !» cria Moash. « Nous avons toujours un boulot à faire !»
Les autres coururent d'un air lugubre vers leur pont et le hissèrent. Sur la tour, l'armée de Dalinar traversait tout en se battant la masse des Parchendi vers le possible refuge, l'équipe de pont. « Ils doivent encaisser des pertes si lourdes !» se dit Kaladin, engourdi. Il tituba et tomba à terre. Teft et Lopen l'entraînèrent dans un creux abrité où ils rejoignirent Scar et Dabid. Le pansement que Scar avait au pied était rougi de sang, et la lance qu'il utilisait comme canne reposait près de lui.
« Je croyais lui avoir dit de ne pas s'appuyer sur ce pied. »«
Il nous faut des sphères, » dit Teft. « Scar, il les a demandées ce matin, » dit l'homme maigre. « Je lui ai donné tout ce que j'avais. Je crois que la plupart des hommes ont fait la même chose. » Teft jura tout bas, retira les flèches restantes du bras de Kaladin, puis le pansa.
« Il va s'en sortir ?» demanda Scar.
« Je sais pas, » répondit Teft. « Je ne sais absolument rien. »«
Kellec, je suis un idiot. Kaladin, gamin, vous m'entendez ?»«
C'est seulement le choc, » dit Kaladin.
« Vous avez une mine étrange, Gancho, » dit nerveusement Lopen. « Vous êtes blanc. »«
Votre peau est livide, gamin, » dit Teft. « On dirait que vous vous êtes fait quelque chose là-bas, je sais pas, je... »
Il jura de nouveau et frappa la pierre de sa paume. « J'aurais dû écouter, crétin !»
Il l'avait étendu sur le côté et il voyait à peine la tour. De nouveaux groupes de Parchendi, ceux qui n'avaient pas vu la démonstration de Kaladin, se dirigeaient vers le gouffre portant des armes. Les hommes du pont 4 arrivèrent et posèrent leur pont. Ils détachèrent leurs boucliers et s'empressèrent de prendre des lances dans les sacs de butin attachés sur le côté du pont. Puis, ils allèrent se mettre en position pour pousser le pont depuis les côtés, se préparant à le faire glisser par-dessus le gouffre. Les groupes de Parchendi n'avaient pas d'arc. Ils se mirent en formation pour attendre, armes brandies. Ils étaient au moins trois fois plus nombreux que les hommes de pont, et d'autres encore arrivaient.
« Il faut que nous les aidions !» dit Scar à Lopen et à Teft.
Les deux autres hochèrent la tête et tous trois, deux blessés et un manchot, se relevèrent. Kaladin voulut les imiter mais retomba, car ses jambes étaient trop faibles pour le soutenir.
« Restez là, gamin !» dit Teft en souriant. « Nous allons très bien nous en sortir. »
Ils récupérèrent des lances dans la réserve que Lopen avait placée dans sa civière, puis allèrent rejoindre l'équipe en clopinant. Même Dabid les suivit. Il n'avait jamais reparlé depuis qu'il avait été blessé lors de cette première course au pont si longtemps auparavant. Kaladin rampa jusqu'au bord de son abri pour les observer. Syl se posa près de lui sur la pierre.
« Bande d'idiots !» marmonna Kaladin. « Ils n'auraient pas dû me suivre, mais je suis fier d'eux malgré tout. »«
Kaladin !» dit Syl. « Est-ce que tu peux faire quoi que ce soit ?»«
Quel épuisement !» « Quelque chose pour me rendre plus fort. »
Elle secoua la tête. Non loin de là, les hommes de pont se mirent à pousser. Le bois du pont racla bruyamment les pierres en s'avançant par-dessus le gouffre en direction des Parchendi qui les attendaient. Ils entonnèrent leur chant de bataille féroce, celui qu'ils chantaient chaque fois qu'ils voyaient Kaladin dans son armure. Les Parchendi semblaient impatients, furieux, mortels. Ils voulaient du sang. Ils allaient attaquer les hommes de pont et les tailler en pièces, puis faire tomber le pont et leurs cadavres dans le vide béant.
« Ça recommence », se dit Kaladin, hébété, écrasé.
Il se surprit à se recroqueviller sur lui-même, vidé et secoué.
« Je ne peux pas les atteindre. Ils vont mourir sous mes yeux. Tux, mort. Nelda, mort. Gauchel, mort. Dalet, Sen, Carto. « Denis, mort, mort, mort. Tienne, mort. »
Étendu dans une cavité rocheuse, recroquevillé, les bruits du combat qui résonnaient au loin, la mort autour de lui. L'espace d'un instant, il se retrouva de nouveau projeté vers cette journée affreuse entre toutes. Kaladin traversa en titubant le chaos, les hurlements et le fracas de la guerre, s'accrochant à sa lance. Il avait lâché son bouclier. Il devait en trouver un quelque part. N'aurait-il pas dû en avoir un? C'était sa troisième véritable bataille.
Il n'appartenait à l'armée d'Amaram que depuis quelques mois, mais Pierre d'Âtre lui semblait déjà un tout autre monde. Il atteignit un creux dans la roche et s'y adossa, accroupi, inspirant et expirant, les doigts glissant sur la hampe de la lance. Il tremblait. Il ne s'était jamais rendu compte que sa vie avait été à ce point idyllique, loin de la guerre, de la mort, de ses hurlements, de la cacophonie du métal contre le bois, contre la chair. Il ferma très fort les yeux pour tenter de tout chasser. « Non, se dit-il, ouvre les yeux. Ne les laisse pas te trouver et te tuer si facilement. » Il s'obligea à les rouvrir, puis se retourna et regarda en direction du champ de bataille. C'était un désordre sans nom. Il se battait sur une vaste colline, avec des milliers d'hommes de chaque côté qui s'entremêlaient et se massacraient. Comment qui que ce soit s'y retrouvait-il au milieu de toute cette folie? L'armée d'Amaram, celle de Kaladin, s'efforçait de défendre le sommet de la colline. Une autre armée, Aleti elle aussi, essayait de la leur reprendre. C'était tout ce que savait Kaladin. L'ennemi semblait plus nombreux que sa propre armée. « Il va s'en sortir, se dit Kaladin. Il le faut. » Mais il avait du mal à s'en convaincre. Tien n'avait pas joué longtemps les messagers. Le recrutement était en baisse, lui avait-on dit, et l'on avait besoin de tous ceux capables de tenir une lance. Tien et les autres messagers avaient été répartis en plusieurs escouades de réservistes. Dalar affirmait qu'on ne les utiliserait jamais, sans doute, à moins que l'armée ne court un grave danger. Le fait d'être cerné au sommet d'une colline abrupte, leur ligne désorganisée, en constituait-il un ? « Va jusqu'au sommet, se dit-il en regardant vers le haut de la pente. La bannière d'Amaram y flottait toujours. Leurs soldats devaient tenir bon. Kaladin ne voyait qu'un chaos bouillonnant d'hommes en orange et quelques rares touches de vert forêt. Il se mit à courir vers le haut de la colline, sans se retourner quand les hommes criaient dans sa direction, sans vérifier de quel camp ils étaient. Des carrés d'herbe se retirèrent devant lui. Il trébucha sur quelques cadavres, contourna en courant quelques lestes souches difformes, évitant les endroits où des hommes se battaient. « Là !» se dit-il en remarquant un groupe de lanciers devant lui, en rang, qui le regardait d'un air méfiant. « Vert, les couleurs d'Amaram. » Kaladin se fraya un chemin jusqu'à eux, et les soldats le laissèrent passer. « De quelle escouade êtes-vous, soldat ?» demanda un pâle iris à la carrure solide qui arborait des nœuds de capitaine. « Mort, capitaine !» s'obligea à répondre Kaladin. « Tous morts. Nous faisions partie de la compagnie du clarissime Tashlin et... »« Bah !» dit l'homme en se tournant vers un messager. « C'est le troisième rapport que nous ayons eu qui nous indique que Tashlin est mort. Que quelqu'un avertisse Amaram. Le côté est en train de s'affaiblir petit à petit. » Il regarda Kaladin. « Vous, allez rejoindre les réserves pour qu'on vous réaffecte. »« Oui, capitaine, » répondit Kaladin, engourdi. Il baissa les yeux vers la direction d'où il était venu. La pente était jonchée de cadavres, dont beaucoup portaient du verre. Il vit alors un groupe de trois retardataires qui se ruaient vers le sommet se faire intercepter et massacrer. Aucun des hommes du sommet ne bougea pour leur venir en aide. Kaladin aurait pu tomber tout aussi facilement, à quelques mètres à peine de leur ligne. Il savait qu'il était sans doute important, d'un point de vue stratégique, que les soldats de la ligne maintiennent leur position. Mais ça semblait si cruel. « Va chercher Tien, » se dit-il, en courant vers les réserves du côté nord du vaste sommet de la colline. Ici, cependant, il ne trouva que davantage de chaos. Des groupes d'hommes hébétés, couverts de sang, que l'on répartissait dans de nouvelles escouades avant de les renvoyer sur le champ de bataille. Kaladin se déplaçait parmi eux, cherchant l'escouade que l'on avait formée à partir des groupes de messagers. Il trouva d'abord Dalar, le sergent dégingandé et responsable des réserves, qui n'avait que trois doigts, se tenait près d'un mât arborant deux bannières triangulaires qui flottaient au vent. Il était en train d'affecter des escouades fraîchement créées pour compenser les pertes des compagnies qui se battaient plus bas. Kaladin entendait encore les cris. «
Vous ?»
dit Dalar en le montrant du doigt.
« La réaffectation se trouve par là. Dépêchez-vous. »
« Je dois trouver l'escouade formée à partir des messagers, » dit Kaladin.
« Et pourquoi voudriez-vous faire ça ?»«
Comment voulez-vous que je le sache ?» répondit Kaladin en haussant les épaules, s'efforçant de garder son calme.
Je me contente de suivre les ordres.
La compagnie du clarissime Scheller,
grommela Dallard.
Du côté sud-est, vous pouvez.
Kaladin courait déjà. Ce n'était pas censé se produire. Tyène était censé rester à l'abri. Père des tempêtes, il ne s'était pas encore écoulé 4 mois. Il se dirigea vers le flanc sud-est de la colline et chercha une bannière qui flottait en bas, au quart de la pente. La paire de glyphes d'un noir intense indiquait « Chèche l'Erel », la compagnie de Scheller. Surpris de sa propre détermination, Kaladin dépassa les soldats qui gardaient le sommet de la colline et se retrouva de nouveau sur le champ de bataille. Les choses se présentaient mieux ici. La compagnie de Scheller tenait bon, bien qu'elle soit assaillie par une vague d'ennemis. Kaladin descendit la pente à toute allure, dérapant par endroits, glissant sur du sang. Sa peur avait disparu, remplacée par l'inquiétude pour son frère. Il atteignit la ligne de la compagnie alors même que les escouades ennemies attaquaient. Il tenta de s'enfoncer davantage derrière les lignes à la recherche de Tyène, mais il se retrouva pris dans la vague d'attaque. Il se faufila sur le côté, où il rejoignit une escouade de lanciers. L'ennemi fut sur eux en une seconde. Kaladin tenait sa lance à 2 mains, demeurant en bordure du groupe de lanciers et s'efforçant de ne pas les gêner. Il ne savait pas vraiment ce qu'il faisait. Il en savait à peine assez pour utiliser son bouclier pour se protéger. L'échange se produisit rapidement, et Kaladin ne porta qu'un seul coup. L'ennemi fut repoussé, et il parvint à ne pas se faire blesser. Il resta immobile, haletant, serrant sa lance.
« Vous !» dit une voix autoritaire. Un homme le montrait du doigt, des nœuds aux épaules, le chef d'escouade. « Il était temps que mon équipe reçoive quelques renforts. L'espace d'un moment, j'ai cru que Vart allait obtenir tous les hommes. Où est votre bouclier ?»
Kaladin alla ramasser celui d'un soldat mort non loin de là. Tandis qu'il s'activait, le chef d'escouade jura derrière lui.
« Damnation, ils reviennent, en tenaille cette fois-ci. Nous ne pouvons pas tenir comme ça !»
Un homme vêtu d'un gilet vert de messager gravit péniblement une formation rocheuse toute proche.
« Résistez contre l'attaque à l'est, mèche !»« Et cette vague au sud !» hurla en réponse le chef d'escouade. « On s'en occupe pour l'instant, défendez l'est, ce sont vos ordres !»
Le messager s'avança pour aller livrer un message similaire à l'escouade suivante de la ligne.
« Vart, votre escouade doit défendre l'est !»
Kaladin se leva avec son bouclier. Il devait aller retrouver Tyène. Il ne pouvait pas. Il s'arrêta brusquement. Dans l'escouade suivante, le long de la ligne, se tenaient 3 silhouettes. De jeunes garçons qui semblaient minuscules dans leur armure et tenaient leur lance d'un air hésitant. L'un d'entre eux était Tyène. Son équipe de réservistes avait manifestement été répartie pour aller combler les vides des autres escouades.
« Tyène !»
hurla Kaladin, sortant de la ligne alors que les troupes ennemies fonçaient sur eux. Pourquoi Tyène et les 2 autres étaient-ils placés au milieu du premier rang de la formation d'escouade ? Ils savaient à peine tenir une lance. Mèche hurla quelque chose à Kaladin, mais il l'ignora. L'ennemi fut sur eux en un instant, et l'escouade de Mèche se dispersa, perdant toute discipline, résistant d'une manière plus affolée, moins ordonnée. Kaladin sentit contre sa jambe une sorte de choc sourd. Il trébucha, heurta le sol et comprit avec stupéfaction qu'il avait reçu un coup de lance. Il n'éprouvait aucune douleur. Curieux. « Tyène !» se dit-il en s'obligeant à se lever. Quelqu'un se dressait au-dessus de lui. Kaladin réagit aussitôt et fit une roulade tandis que la lance s'abattait, visant son cœur. Sa propre lance se retrouva entre ses mains avant même qu'il comprenne qu'il s'en était saisi, et il la projeta violemment vers le haut. Puis, il se figea. Il venait de planter sa lance dans le cou du soldat ennemi. C'était arrivé si vite. « Je viens de tuer un homme. » Il se retourna et laissa l'ennemi tomber à genoux tandis qu'il dégageait sa lance d'un coup sec. L'escouade de Vart se trouvait un peu plus loin. L'ennemi l'atteignit peu après avoir attaqué l'endroit où s'était trouvé Kaladin. Tyène et les 2 autres étaient toujours à l'avant. « Tyène !» hurla Kaladin. Le garçon se tourna vers lui et ouvrit de grands yeux. Il souriait même. Derrière lui, le reste de l'escouade recula, laissant exposer les 3 garçons inexpérimentés. Et, percevant une faiblesse, les soldats ennemis fondirent sur Tyène et les autres.
Ils étaient menés par un pâle iris en armure d'acier luisant. Il donna un coup d'épée. Le frère de Kaladin tomba en un clin d'œil. L'instant d'avant, il se tenait là, terrifié. L'instant suivant, il était à terre.
« Non !»
hurla Kaladin. Il tenta de se lever, mais glissa sur ses genoux. Sa jambe ne fonctionnait pas correctement. L'escouade de Vart se rua pour attaquer l'ennemi, distrait par Tienne et les deux autres. Ils avaient placé à l'avant ceux qui n'avaient pas d'entraînement pour briser l'élan de l'attaque ennemie.
« Non, non, non !»
hurla Kaladin. Il utilisa la lance pour se relever, puis s'avança en titubant. Ça n'était pas possible. Ça ne pouvait pas avoir pris fin si vite. Ce fut un miracle que personne ne l'abatte, tandis qu'il parcourait le reste de la distance en titubant. Il y pensa à peine. Il se contentait de regarder l'endroit où Tienne était tombé. Il entendit le tonnerre. Non, des bruits de sabots. Amaram était arrivé avec sa cavalerie, et ils enfonçaient les lignes ennemies. Kaladin s'en moquait bien. Il atteignit enfin l'endroit. Il y trouva trois cadavres, jeunes, petits, étendus dans une cavité rocheuse. Horrifié, transi, Kaladin tendit la main et retourna celui qui était sur le ventre. Les yeux morts de Tienne se braquèrent fixement vers le haut. Kaladin resta agenouillé près du corps. Il aurait dû panser sa plaie, retourner en lieu sûr, mais il était trop engourdi. Il demeura simplement agenouillé.
« Il était temps qu'il arrive jusqu'ici, » dit une voix.
Kaladin leva les yeux et vit un groupe de lanciers qui se rassemblait tout près, observant la cavalerie.
« Il voulait qu'il se concentre sur nous, » dit l'un des lanciers.
Il avait des nœuds sur les épaules. Vart, leur chef d'escouade. Quel regard intelligent il avait. Ce n'était pas un rustre. Il était mince et réfléchi. « Je devrais ressentir de la colère, » se dit Kaladin. « Je devrais ressentir quelque chose. »
Vart baissa les yeux vers lui, puis vers les corps des trois jeunes messagers.
« Espèce de salaud !» siffla Kaladin. « Vous les avez placés à l'avant !»«
On fait avec ce qu'on a !» répondit Vart en faisant signe à son équipe, avant de montrer du doigt une position fortifiée.
« Si l'on me donne des hommes qui ne savent pas se battre, je leur trouve un autre usage. »
Il hésita tandis que son équipe s'éloignait. Il semblait plein de regrets.
« Il faut faire le nécessaire pour rester en vie, jeune homme. Transformez un handicap en avantage chaque fois que vous le pourrez. Gardez ça en mémoire, si vous survivez. »
Il s'éloigna en trottinant.
Kaladin baissa la tête. « Pourquoi n'ai-je pas pu le protéger ?» se demanda-t-il en regardant Tienne, se rappelant le rire de son frère. Son innocence, son sourire, son exaltation à l'idée d'explorer les collines à l'extérieur de Pierre d'Âtre.
« s'il vous plaît, laissez-moi le protéger. Rendez-moi assez fort. »
Il se sentait si faible. C'était la perte de sang. Il s'affaissa sur le côté et, de ses mains fatiguées, il garrotta sa blessure. Ensuite, ressentant un terrible vide intérieur, il s'allongea auprès de Tienne et tira le corps tout près de lui.
« Ne t'en fais pas, » murmura Kaladin. « Quand s'était-il mis à pleurer ? Je vais te ramener à la maison. Je vais te protéger, Tienne. Je vais te ramener. »
Il serra le corps jusqu'au soir, bien après la fin des combats, et s'y accrochait toujours quand le froid se mit lentement à tomber. Kaladin cligna des yeux. Il ne se trouvait plus dans cette cavité avec Tienne. Il était sur le plateau. Il entendait des hommes mourir au loin. Il détestait repenser à ce jour. Il regrettait presque d'être parti à la recherche de Tienne. Alors, il n'aurait pas été obligé de regarder. Il n'aurait pas eu à rester agenouillé là, impuissant, tandis qu'on massacrait son frère. Tout ça recommençait. Rock, Moash, Teft, ils allaient tous mourir. Et il était étendu là. De nouveau impuissant, il parvenait à peine à bouger. Il se sentait tellement épuisé.
« Kaladin !» chuchota une voix.
Il cligna des yeux, s'il flottait devant lui.
« Est-ce que tu connais les paroles ?»«
Tout ce que je voulais, c'était les protéger, » murmura-t-il.
C'est pour ça que je suis venu. Les paroles, Kaladin.
Ils vont mourir. Je ne peux pas les sauver. Je...
Amaram massacrait ses hommes devant lui. Un porte-éclat sans nom tuait Dalet. Un paliris tuait Tien.
Non. Kaladin se retourna et s'obligea à se lever, oscillant sur ses jambes faibles.
Non. Le pont 4 n'avait pas encore reposé son pont, ce qui le surprit. Ils étaient toujours en train de le pousser par-dessus le gouffre, avec les Parchendi qui se rassemblaient de l'autre côté, impatients, et dont le chant se faisait de plus en plus frénétique. Ses hallucinations lui avaient semblé se prolonger des heures, mais n'avaient duré que le temps de quelques battements de cœur.
« Non !»
La civière de Lopen se trouvait devant lui. Une lance reposait au milieu des bouteilles d'eau vides et des pansements effilochés, sa tête d'acier reflétant la lumière du soleil. Elle s'adressait à lui en chuchotant. Elle le terrifiait, et il adorait ça.
« Quand le moment viendra, j'espère que vous serez prêts, parce que cette bande-là aura besoin de vous. »
Il s'empara de la lance, la première arme véritable qu'il ait tenue depuis sa démonstration dans le gouffre toutes ces semaines auparavant. Puis, il se mit à courir, lentement tout d'abord, puis plus vite, sans retenue, malgré l'épuisement de tout son corps. Mais il ne s'arrêta pas. Il pressa l'allure, de plus en plus fort, chargeant vers le pont, qui n'était qu'à moitié avancé par-dessus le gouffre. S'il se précipita devant lui, regardant en arrière, l'air inquiet. « Les paroles, Kaladin !» Rock cria en voyant Kaladin se mettre à courir sur le pont en mouvement. Le bois tremblait sous lui. Il était suspendu au-dessus du gouffre, mais n'avait pas encore atteint l'autre côté.
« Kaladin !» s'écria Teft. « Que faites-vous »
Kaladin hurla alors qu'il atteignait le bout du pont. Trouvant quelque part en lui un minuscule regain de force, il leva sa lance et se jeta du bout de la plateforme de bois, s'élançant dans les airs au-dessus du vide béant. Les hommes de pont poussèrent des cris de désarroi. Syl tournait autour de lui avec inquiétude. Les Parchendi levèrent les yeux, stupéfaits, pour regarder un homme de pont isolé fendre les airs dans leur direction. Son corps épuisé, usé, avait presque perdu toutes ses forces. Lors de cet instant de temps cristallisé, il baissa les yeux sur ses ennemis. Des Parchendi à la peau marbrée de rouge et de noir. Des soldats levant des armes finement sculptées, comme pour le découper du ciel. Des étrangers, des bizarreries en armure de carapace. Beaucoup d'entre eux portaient des barbes dans lesquelles luisaient des gemmes. Kaladin inspira. Comme le pouvoir du salut lui-même, comme des rayons de soleil jaillis des yeux du Tout-Puissant, la fulgiflamme surgit de ses gemmes. Elle s'éleva dans les airs, attirée en courants visibles, comme des colonnes de fumée luminescentes, qui se tortillaient, se tordaient, montaient en spirale comme de minuscules nuages en entonnoir, jusqu'à le percuter. Et la tempête s'éveilla de nouveau. Kaladin heurta la saillie rocheuse, ses jambes soudain redevenues fortes, son esprit, son corps et son sang vibrant d'énergie. Il tomba accroupi, lance sous le bras, un petit anneau de fulgiflamme se déployant en une vague qui partait de lui, repoussé vers les pierres par sa chute. Abasourdi, les Parchendi refluèrent, ouvrant de grands yeux, tandis que leur chant faiblissait. Un filet de fulgiflamme referma les plaies de son bras. Il sourit, lance brandie devant lui. Elle lui était aussi familière que le corps d'une amante perdue depuis longtemps. « Les paroles !» disait une voix, insistante, comme si elle parlait directement à son esprit. Lors de cet instant, Kaladin s'aperçut à sa grande stupéfaction qu'il les connaissait, bien qu'on ne les lui ait jamais apprises. « Je protégerai ceux qui ne peuvent se protéger eux-mêmes, » murmura-t-il. « Le deuxième idéal des chevaliers radieux. » Un violent craquement ébranla l'air, comme un énorme coup de tonnerre, bien que le ciel soit totalement dégagé. Teft recula en titubant, alors même qu'il venait de poser le pont en place, et se surprit à regarder bouche bée avec le reste du pont 4. Kaladin dégageait une explosion d'énergie. Un violent éclat de blancheur s'échappa de lui, une vague de fumée blanche, de la fulgiflamme. L'impact percuta le premier rang de Parchendi, les renversant en arrière, et Teft dut lever la main pour se protéger de cette lumière.
« Quelque chose vient de changer !»
chuchota Moash, levant la main.
quelque chose d'important. »
Kaladin leva sa lance. La puissante lumière se mit à décroître et se retira. Un éclat plus sourd s'échappa de son corps, luminescent, comme la fumée se dégageant d'un feu éthéré. Non loin de là, quelques-uns des Parchendi prenaient la fuite, mais d'autres s'approchèrent, levant leurs armes d'un air de défi.
Kaladin fonça sur eux, tempête vivante d'acier, de bois, de détermination.